Ça sent la fin de journée. Déjà, on devine la soirée se profiler à l'horizon, à perte de vue de lacs gelés qu'on n'a jamais osé enjamber. Oser à jamais. Oser prendre une heure, juste une heure, et se poser, raconter, écouter, rêvasser, éveiller. Voyageurs immobiles. S'offrir ces petits bonheurs, les partager. Oser jamais souffrir, pas payer les péages et faire rugir les chevaux du plaisir. En tout cas, on va essayer de s'y coca-coller. On n'est pas bien là, décontracté, etc. Embarquement immédiat. Attention à la fermeture des portes.
Bonsoir, je nous présente, elle s'appelle Marianne, c'est la voix de la dame. Moi, je suis Jean-Michel Alcaraz, on dira Doc McMurphy, c'est mon pseudo pour Radio Diwa et mon compte Facebook. Et ce soir, nous recevons Yves Aubry de Barnabe qui va nous parler de cinéma.
On n'est pas bien là ? Hein ? Tu descends les coussins d'huile ? Sous ton cul ? Hydropneumatique, mon petit bonhomme.
Alors comme ça, jeune homme, vous habitez à Barnabe ?
Oui, depuis bientôt 19 ans.
19 ans ?
19 ans, le temps passe vite.
Ah, t'es pas un Barnabier depuis le début ?
Ah ben 19 ans, ça commence à faire, mais je suis de la région quand même.
D'accord.
Là, le lieu où on est, c'est l'endroit où j'allais à l'école il y a quelques années, juste dans les années 50, 51. Et donc, je me considère comme du Diwa, bien que né à Grenoble. J'ai retrouvé mes sources de mon enfance de potate. Ah, il s'en est passé dans cet endroit. Ça me fait tout drôle de revenir là.
Et tu sais pourquoi on l'appelle la maison Reynaud ?
Joseph Reynaud, je suppose que c'est quelqu'un qui a été, pendant la guerre, jouer un rôle dans la résistance, je suppose. Mais je... Joseph Reynaud. Alors déjà on disait Freynaud, histoire de se moquer. Mais ça c'est quand on était gamin.
Et donc, quand on s'était vu, tu m'avais dit que... On aurait pu parler de cinéma.
Mais je me suis trouvé dans une honorable institution dans les années 70 qui s'appelle la FOL, la Fédération des œuvres laïques. Institution honorable très laïcarde. Et j'étais instituteur mis à disposition de la FOL, de l'Isère, parce que là j'étais dans l'Isère. Je n'étais plus dans la Drôme. Et dans cette honorable institution, qui dépendait de la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente, rien que ça, système confédéral avec des fédérations qui se confédéraient au niveau national et une fédération par département. Et on travaillait beaucoup avec la région Rhône-Alpes. Et j'ai attaqué dans cette honorable institution en 70. quelque chose comme ça, où je suis suite à une crise politique dans la boutique, et où on m'a sollicité pour si je voulais être mis à disposition de la FOL, ce que j'ai accepté, parce que j'avais déjà travaillé comme bénévole avec la FOL, avec les outils de la FOL de l'époque, en 68, où là j'ai fait un film que je n'ai jamais vu. Enfin, j'ai participé à un film que je n'ai jamais vu. J'avais une caméra Payar Bolex 16 mm, qui était déjà un bel outil. Et on avait un pass, c'était donc 68, on avait un pass de l'intersyndicale qui nous permettait d'assister à toutes les assemblées générales dans toutes les boîtes. C'était assez extraordinaire. Et on filmait et on enregistrait. Ça, c'est donc ayant participé dans les années 68 à ça. Après, je suis parti enseigner en Tunisie 2 ans. Et retour comme instit à Grenoble. Et c'est là qu'on m'a sollicité pour participer, pour faire partie de la Fédération des œuvres laïques, où je suis resté 20 ans. La FOL, ce qu'il y avait d'hallucinant, c'est que on se lançait dans des trucs qu'on ne connaissait ou on n'y connaissait rien. Parce que quand même, il est intéressant de savoir que la FOL s'occupait de culture, évidemment, de sport, et c'était une fédération omnisport. Sport co, rugby, foot, etc. En liaison avec les fédérations dirigeantes. Et les matchs étaient reconnus ou pas par la fédération dirigeante. Et je me suis retrouvé à avoir la responsabilité du ski, des concours de ski, de la formation aussi des bénévoles qui voulaient bien accompagner les enfants à la neige. Les initiateurs, mais pour être initiateur, il fallait passer quand même 2 examens. Un examen technique et puis une pédagogie. Et j'avais la responsabilité d'organiser ce type de stage. Je me suis bien amusé. Et comme je tenais quand même à assister à tout, moi je chapeautais en fait. Hein. J'étais pas obligé de suivre les stages, etc. Mais quand même, on ne laisse pas les bénévoles tout seuls alors qu'on est payé. Et ce qui fait que j'ai fait beaucoup de ski pendant ces années-là. Puis les compétitions, il y avait des compétitions de ski qui étaient reconnues aussi à l'UFOLEP. L'UFOLEP, c'était la Fédération Omnisport en dehors de l'école, des clubs. Et puis il y avait l'UCEP, l'Union Sportive d'Enseignement Primaire, où il y avait là des compétitions aussi dans les sports co, la natation, le ski, etc. Et j'ai passé là de 70 à 75. Et après, j'ai sauté, si je puis dire, dans le culturel. Et culturel qui s'occupait de théâtre, de cinéma, de plein de choses comme ça, de lecture, où on travaillait beaucoup avec les bibliothèques. Et pour ce qui est du cinéma, l'UFOLIS, qui était une fédération de ciné-club, qui distribuait des films dans les associations du département de l'Isère. Et là, j'y suis resté encore, je ne sais plus combien d'années. Enfin, j'ai arrêté en 90. Mais l'UFOLIS était la plus grosse fédération de ciné-clubs de France et de Navarre, dans la mesure où on avait les films, on était très organisés. Et il y avait une revue nationale qui s'appelait la Revue du cinéma. Et avant, juste avant, toujours la même revue, mais images et sons. J'ai encore des revues jusqu'en 81. Les autres, je ne sais pas ce que j'en ai fait, je les ai perdues, c'est dommage. Et cette revue était une revue nationale. C'était Paris, le niveau confédéral, qui négociait les droits des films, tous des films, de très bons films, qui négociait donc les droits avec les distributeurs. Le cinéma retirait ses sous d'abord dans les salles à l'époque, ensuite avec les droits télé, et pour terminer, il récupérait encore 3 sous avec les fédérations de cinéma. Et on avait chaque début d'année une réunion, c'était à Lyon en général, qui s'appelait les cadres à voir. Ces cadres à voir, c'était évidemment des films, et où étaient visionnés pendant une semaine, ça durait une semaine je crois, je ne me rappelle plus très bien, où on projetait tous les films dont on avait acheté les droits, histoire de quand même savoir qu'est-ce qu'on peut recommander aux assos comme film. Et c'était assez étonnant. Au début, on travaillait, le matin ça commençait les projections, on voyait 2 longs métrages le matin des fois, 1 ou 2, et l'après-midi et le soir on reprenait, enfin tu voyais dans la journée 4-5 films. Et alors ça me faisait drôle parce que t'en arrivais à tout mélanger. Alors pour se repérer, Images et Sons avait fait une revue sur les films achetés, ou quand même quelques indications pour te repérer. Mais au début, quand t'as pas l'habitude que tu consommes de la péloche à ce rythme-là, tu mélanges tout. Et les fédérations de cinéma se sont cassées la gueule avec l'arrivée de la télé et surtout des magnétoscopes. Parce qu'il était évident qu'ils passaient des films avec le magnétoscope, c'était moins cher que de les louer chez nous. Et alors au début, je m'étais fâché, mais c'était très con en fait. Parce que c'était une projection publique, alors qu'ils n'avaient pas le droit de projeter des cassettes en public. Ah ben oui. Alors, mais c'était quand même nettement plus meilleur marché pour les lycées, pour les écoles, surtout les lycées. Que de louer l'appareil, que de louer les films. Mais ça avait une autre. Ce qu'on faisait avait une autre tenue que. D'autant que les écrans de télé à l'époque, je te dis pas.
On va faire une pause en s'écoutant le cinématographe de Boris Vian.
Très bonne idée.
Au matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard, quand la reine reviendra, ma parole, nous on reviendra pas. Jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on trouve un Beaujolais vrai de vrai, un nectar de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse. incroyable. Ouvre cette porte et sors des vêtements. Ne t'ostine pas ou sans ça le prochain coup. Ma parole, je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là. On a trépassé le soir, mais voilà. On se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir déménagement.
Voilà, donc on n'est pas là pour se faire engueuler.
On est venu pour voir le défilé. Le jour de la fête, là, mon poteau, etc.
etc.
Bon, on en est où, là ?
Eh bien, donc, on avait passé tout à l'heure le morceau, la cinémathèque de Viard. Maintenant, on n'est pas là pour se faire engueuler.
Oui, mais
et donc, on est dans la folle tout à l'heure, quand vous embarquez dans le,
pas celle de
le
Chaillot,
culturel hein. Et le cinéma.
Pas la folle de Chaillot, hein ?
Non, non. La folle, FOL, Fédération des œuvres laïques, si j'ai bien compris.
Comment, si j'ai bien compris, tu devrais connaître ça?
Je m'en souviens, mais il y a fort longtemps. Moi, j'étais séméa et tout ça, là, tu sais.
Bon, c'est tout la même mouvance.
C'est les branches, hein, c'est les filiales. Ah, ouais. Voilà, ouais.
Les séméa, c'est les vacances.
Voilà,
les centres
ça.
De vacances.
Voilà, j'étais moniteur connu de vacances.
Et la formation des moniteurs de centres de vacances.
L'UCPA et tout ça, là.
L'UCPA, oui, etc.
Ouais.
Mais il n'y a pas Cato, hein.
Non, 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 je savais que les autres, c'était les concurrents d'en face, il y avait les curés. Et puis
oui, ils faisaient un bon boulot aussi, les curés, mais pas pareil.
Ben, l'angle du bon Dieu, quoi. Eux, ils ont la... Et donc, nous voilà dans le culturel avec le cinéma.
J'avais déjà commencé, d'ailleurs, je ne me rappelais plus, tiens. Lorsque j'étais surveillant, pion, comme on disait à l'époque, à Grenoble, à... J'ai oublié le nom du bahut. Ça me reviendra peut-être.
Stendhal hein.
Non plus.
Ah.
Un bahut technique, un gros bahut technique qui préparait les ingénieurs, les machins comme ça. Bref, et il y avait un ciné-club. Comme j'aimais bien le cinéma, le surveillant général m'avait branché pour que je m'en occupe. Et j'ai un vieux copain qui a fait ses études à Vaucanson, voilà, au lycée Vaucanson. Qui se souvient encore de ces animations-là. Moi, j'ai oublié, lui, il s'en souvient encore. Il a le droit, hein. Et ce, je ne sais pas combien d'années après, je préfère ne pas compter. Parce que ça ne me rajeunit pas. Donc, me la partie responsable des ciné-clubs de l'Isère. Personne n'est parfait.
Dieu merci.
On va le remercier parce que c'est l'imperfection, c'est plus pour nous. Et puis c'est triste. Bon, passons à autre chose. On embraye sur quoi là ?
Le cinéma. Alors, le cinéma, le premier film qui t'a tilté par exemple ?
Oula.
Oula.
Oula. Burlesque américain.
Ah.
Style Chaplin, Lloyd, Keaton. Et tiens-toi bien à Lucandiwa, dans les années 40, après la guerre, évidemment. Peu de temps après la guerre, entre 45 et 50. Ça faisait drôle. Non, mais c'était... Mais le cinéma muet a ce côté magnifique qu'il faut tout faire comprendre avec l'image. Pas question d'avoir des commentaires... puisque c'est muet. Ça donnait des choses assez extraordinaires. Sinon, tu ne comprenais pas comment était montée l'image. Tu ne pouvais pas suivre. Et Celui que j'ai toujours préféré, c'est Keaton. Lloyd aussi. Enfin bref, ça c'est toute une histoire du cinéma. Et quand il y avait du texte, c'était des placards avec la semaine prochaine ou je sais pas quoi, tu vois. Et très décoré, très... Bon, mais ça, ça nous mène pas loin. Hein. Mais pour revenir au parlant...
Non, voilà, c'est... tu vois l'idée de Romain Rolland. Ouais. Je suis parti là-dessus, j'ai fait un boulot pendant 20 ans là-dessus, mais je te montre. Ouais.
Et ce qu'il y avait de magnifique dans le cinéma muet, c'était les plans, ils étaient très travaillés, il n'y avait pas le choix. C'était assez hallucinant comme travail. Mais quand je vois les films maintenant, non pas les films de cinéma, mais les séries, j'avoue qu'il y a des moments, c'est des baffes qui me manquent. C'est un travail de... la place de la musique dedans qui remplace l'émotion. Non, ça me désole. Là, c'était déjà plus du muet. Il faisait allusion au western. Parce que là, lui, vient là, il fait allusion au western, au héros, au mythe du héros, Gary Cooper,
ouais, tout
etc.
Ça.
J'avoue qu'en ce qui me concerne, c'est un cinéma que j'aime pas. J'aime pas beaucoup. Il y a presque une apologie de la violence et j'aime pas ça. Mais bon.
Une impression de cette époque-là, c'est-à-dire vous découvriez les films pendant ces 4-5 films par jour, tu vois. Ça me...
Non, mais ça, c'était ce qu'on appelait les cadres à voir. Donc, parce que c'était en 35 qu'il fallait les passer en 16.
Plus.
Ben oui, puisque nous, les bobines sur lesquelles les films étaient montés, c'était du 16 mm, sinon ça tenait trop de place. Et puis on avait monté des cinémas itinérants, j'avais des copains qui s'étaient passionnés pour ça. Pour ça, c'était assez étonnant. Les programmations se faisaient avec les gens du coin, On trimballait Il y avait quelqu'un qui trimballait les appareils de cinéma. Mmh. C'était des Elmo. Les films de 16 mm. Hein. Mmh. Appareils de cinéma japonais. Et avant, je me souviens plus du nom d'autres appareils qu'on avait récupérés il y a bien longtemps de ça. De l'armée. Il y avait des grandes caisses en bois, c'était lourd comme tout. Et on avait supprimé ça, remplacé par des Elmo qui étaient quand même beaucoup plus transportables. Mais il y a bien longtemps tout ça.
Une question, tu sais, quand tu parles du transfert du 35 au 16, vous aviez un labo où vous receviez donc les films en 35 et il y avait quelqu'un qui...
Non, il y avait c'était Paris qui s'occupait
de ça.
De ouais. Faire transférer les films du 35 mm au 16.
D'accord, vous recevez vous... D'accord.
Et on récupérait les films prêts. Mm-hmm. Alors c'est marrant parce qu'il y avait plusieurs bobines pour un film. Alors des fois, il y avait... parce qu'une fois qu'on avait passé le film, il fallait remonter, rembobiner.
Oui, oui c'est bon. Cool. La scène du rembobinage.
Des fois, quand les films étaient un peu longs, il y avait trois bobines.
Oui.
Et puis des fois, comme on n'avait pas toujours deux appareils pour passer de l'un à l'autre sans coupure, bon, c'était ciné club. Hein. Mmh. Puis des fois, il y avait des erreurs, c'est-à-dire que il y avait une bobine qui n'était pas à sa place. Mmh. Et je me souviens de projections comme ça où les mecs, ils n'ont rien vu. Alors que la bobine du milieu avait été remplacée par la bobine de la fin.
Voilà.
Et celle du milieu avait pris la fin. C'était trop
génial. Et le public, il ne bronchait pas ? Pas trop ?
Il y avait eu des films où ça n'a pas bronché, ou presque pas bronché.
Ah ouais.
Mais en campagne, le cinéma, il n'y avait pas beaucoup. Ouais.
En fait, ils ne suivaient pas, ils venaient pour embrasser les filles dans les coins.
Je ne sais pas.
Oui, oui. Quoique le public est poli, c'est connu. Hein.
Non, après, quand tu t'étais planté, il fallait enlever, revenir en arrière, le bordel, quoi.
Ah ouais, c'est un travail physique, hein. C'est un sport.
Mais les bobines n'étaient pas très lourdes, 16 mm, ça fait 3 bobines d'un diamètre de, je sais pas, mais... Puis pas encombrant. Attends, le 35, c'est autre chose, hein. Et maintenant, maintenant le 35, il n'y en a pratiquement plus. C'est du numérique. C'est nettement plus simple à transporter.
À propos de 1635, tu sais, moi j'étais étudiant à Aix, en Provence, et il y avait un cinéma culte où tous les branchés allaient, c'était le 1635, son nom. Tu as entendu parler de ce cinéma?
De combien? 1635.
On l'appelait le 1635, c'était le cinéma où il y avait...
16?
Ouais, on l'appelait, oui, c'était deux... le 1635, c'était le nom du cinéma à Aix, en Provence, où il y avait tous les...
Oui, les deux...
Tous les bons films, hein.
Les deux dimensions courantes, quoi.
Mais surtout, c'était la... ils avaient pris ça comme emblème et c'était bien vu, quoi. 16-35, puisqu'on en parle. Ouais.
Cinématographe.
Je propose qu'on fasse une pause, là.
Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi, je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère, Guillaume Tell ou le grand air du Trouvert. Et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ces 3 francs. Belle, 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 belle comme l'amour. Blonde, 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 blonde comme le jour. Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle obscurément. Les mains se cherchent, les mains se trouvent timidement. Belle, 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 la revoilà. Et dans la salle, plus d'un cœur bas. La voiture où elle se croit en sûreté vient de s'écraser par terre avec un essieu cassé. Le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume, à mercredi prochain. Maintenant ce n'est plus mon papa qui peut m'emmener au cinéma, car il plante ses choux là-bas pas loin de Saint-Cucufa. Mais j'ai rencontré une Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça. Elle adore aller le mercredi dans les cinémas. Bien sûr c'est devenu le cinémascope, mais ça remue toujours et ça galope. Et ça reste encore comme autrefois, rempli de cowboys sans foi ni loi et de justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat. Gar, 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 Gary Cooper s'approche du ravin d'enfer. Fais attention, pauvre crétin, car Alan Ladd n'est pas très loin. À 500 mètres, il loge une balle dans un croûton de pain. Gar, 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 pendant ce temps-là, je la prends doucement au creux de mon bras. Le fauteuil où elle se croit en sûreté ne m'empêche pas, ma foi, d'arriver à l'embrasser. J'ai pas vu si Gary sort gagnant, mais comme c'est le cinéma permanent, ma chérie, rappelle-toi, on est resté un an et on a eu beaucoup d'enfants.
Et donc vous voilà avec La Folle un jour à descendre à Cannes.
C'est plus compliqué que ça. Il y a un copain, un des collègues d'ailleurs, de Saint-Étienne, qui faisait le même boulot que moi, qui s'occupait de... Alors il était pratiquement que sur le cinéma, et ils avaient une salle de cinéma, et ils faisaient un boulot, bon, classé, salle à réessayer, enfin j'en passe. Et pour Cannes, il y avait des cartes, il fallait être accrédité. Cannes, c'est un truc de professionnel. Donc il faut des cartes d'accréditation. Et dans les gens accrédités, il y avait les exploitants, des gens qui avaient une salle de cinéma, ils pouvaient demander à participer et avoir la carte d'exploitant et suivre les films. Et ce copain profitait de son truc d'exploitant pour quand même aller à Cannes. Cannes, c'est la plus grande manifestation de cinéma de quasiment du monde. Et moi, j'y étais allé avec lui, je ne me rappelle pas sur quelle carte j'y étais allé, mais Bref, on s'était trouvés tous les deux à Cannes à voir les films. Et putain, je sais pas à quel endroit on est allé. J'apprends qu'il y a une carte d'accréditation. Il y avait une association qui faisait avec la carte d'accréditation, faisait venir des gens de ciné-club local à Cannes. Bon. Et je me dis, putain, mais c'est à nous de faire ça. Et on a des bénévoles qui se battent pour le cinéma. Ce serait quand même sympathique de leur donner la possibilité d'être à Cannes pendant le festival. Alors on a négocié avec, je ne me rappelle plus qui était le directeur du festival de l'époque, et c'était encore au Palais Croisette, c'est pas d'aujourd'hui.
Oui.
Et finalement, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Et le hasard faisait que le national, entre guillemets, c'est-à-dire la structure nationale qui avait des salles, qui avait des structures d'accueil, en avait une à Cannes. On s'est dit, on fait venir on monte le truc, on fait accréditer les responsables de ciné-club. Parce que quand même, ils font un boulot de fou, leur faire plaisir un peu. Donc c'est comme ça qu'on a monté ça. Alors les gens dormaient dans la structure et bouffaient du cinéma à Cannes toute la journée. Et puis voyez les grands du cinéma, quoi. Il y a beaucoup de vedettes, de réalisateurs, de machins. Puis après, il y avait la montée du tapis rouge, enfin.
La montée des marches, assez.
La montée des marches, voilà. C'était assez hallucinant. Et il y avait également, il y avait le marché du film aussi. Eh oui. Le marché du film nous intéressait parce qu'on pouvait acheter des droits sur des films dits jeunes publics. Et là, on pouvait visionner. Enfin bon, il y avait toute une ouverture là qui était assez magique. Et les responsables de ciné-club, ils étaient époustouflés parce que quand c'est fatigant, quand tu bouffes de la péloche aussi, tu marches beaucoup, tu attends.
Ouais, c'est le festival d'Avignon, mais à Cannes, quoi. Où tu mais marches si... beaucoup, c'est épuisant. Mais...
Voilà. Donc on avait monté ce truc. Alors c'était commode d'avoir une structure où on pouvait recevoir des gens.
Vous étiez chez vous, quoi.
On était chez nous. Et on invitait des gens à parler de leurs films. Et on pouvait les recevoir. Et les gens sont souvent les réalisateurs ou les comédiens, mais beaucoup de réalisateurs. Ou alors des gens des métiers du cinéma venaient parler de leur travail avec nous, quoi. Ça, c'était assez étonnant. Ça dure toujours, peut-être, je ne sais pas.
Et l'esprit était intéressant quand ces gens-là venaient vous voir et tout. Ils étaient généreux, ils voyaient que c'était un public de...
Ah non, mais là, quand les gens venaient, c'était un public de cinéphiles. Et puis quand même, quand on aime...
Non, je parle des réalisateurs, les acteurs.
Oui,
pardon.
Oui, bien sûr. Non, mais ils savaient aussi, on choisissait quand on demandait les gens, on proposait à des gens de venir. Bon, c'est des gens que ça intéressait de rencontrer.
D'accord.
Un public de bénévoles de ciné-club. Parce que là, on fonctionnait encore en ciné-club. Et c'était assez étonnant.
Tu as des noms de people connus de l'époque?
Moi, je me suis trouvé une des nombreuses fois où j'y suis allé. Il y avait Yves Montand qui était je ne sais plus comment on dit.
Le héros?
Non.
Le réalisateur?
Non. Montand, c'est un comédien.
Oui.
Mais il y avait, chaque année, il y a un cinéaste, quelqu'un du cinéma,
Le président.
Merci. Voilà. Alors, comme je m'appelle Yves et qu'il s'appelait Yves aussi, on se foutait de ma gueule.
Bon.
Et c'était... Oui, parce que mon temps, il a passé l'arme à gauche. Il y a déjà quelques temps. Et pour en terminer un peu avec le cinéma, il y avait un... Là, je quitte le Cannes pour une structure qui a été montée par le... par un copain qui s'appelle Jacques-Rémy Girard et qui avait monté un truc qui s'appelle Folle Image. Alors, Folle, ça jouait sur deux tableaux, les Folles Images et la Fédération des œuvres laïques. Oui.
J'ai vécu 3 ans à Valence avant de venir ici. Il y avait le Folle Image, c'est le nom
la
du...
Folle Image, Jacques-Rémy Girard.
Oui.
Et Jacques-Rémy, que j'ai bien connu, il faisait des films d'animation.
Et voilà, c'est ça.
Oui. Ça, je dis toujours, d'ailleurs.
Valence, c'est une ville où il y a beaucoup de cinéma d'animation et tout.
Ah non, mais là, lui, il a une structure de création, Jacques-Rémy.
D'accord.
Il a fait des trucs... C'était assez hallucinant. C'est un gros truc maintenant, ça fonctionne.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Avec des longs-métrages.
Je crois que c'est eux qui ont fait Kirikou. Tu vois le truc ?
Kirikou, ah oui, absolument. Voilà. Mmh. Kirikou, c'est Jacques-Rémy.
Voilà, ouais.
Voilà pour la mémoire bizarre qui me remonte de l'époque, de cette époque-là. Mais là, je suis un peu sec.
Mais merci pour cette balade dans l'histoire du cinéma. Un angle que je ne connaissais pas, pourtant j'ai brassé un peu là-dedans, puisque ça a été l'objet de mon travail. Je t'en remercie.
Ah, mais c'était épuisant, hein.
Ah oui.
Cannes, putain, t'arrêtes pas de courir. Tu fais la queue.
Ouais, c'est ça. Ouais.
T'as des horaires, tout niveau, il y a passé tout le temps. Parce que les films, il faut pouvoir... C'est... Et les films, tu n'arrives pas à rentrer, quoi.
Ça me fait penser, tu sais, au salon professionnel où tu vas de stand en stand, ça te branche. Et tout, tu marches, il fait chaud, il y a les spots, il y a la totale, quoi.
Oh, puis ce que les canons appellent le bunker, donc le machin où il y a tous les festivals, dont le festival de Cannes, c'est une usine, quoi.
Ok. Merci pour ce charmant entretien, cher Yves.
Oui, la mémoire me manque, je retrouverai peut-être des trucs, mais...
Ah ouais, on pourra embrayer sur la chanson de « J'ai la mémoire qui flanche », je ne sais plus trop
ah
qui.
Ah oui, tiens, vas-y,
C'est qui celle-là? C'est une nana.
Oui, je me...
YouTube nous le dira.
Jeanne Moreau.
Jeanne Moreau, ah oui, Jeanne Moreau.
Ouais, ouais. Tiens, mets-la.
Hein? Allez, on la
met. Je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il meurt, pendant qu'on faisait la fête, tous ses saxos, ses clarinettes, il me tournait la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi? Était-ce lui? Était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour en se rasant.
Et voilà.
Excellent.
Ouais, ça va.
J'avais oublié celle-là.